Les matins de France Culture.
La France des mathématiques souffre d'un paradoxe formant parmi les meilleurs mathématiciens du monde. Elle voit le niveau général de ses élèves dégringoler d'année en année dans les classements mondiaux de référence. Médaille Fields 2010 et député La République En Marche. Je reçois Cédric Villani, bonjour. Villani, vous venez de vous voir confier une mission par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, afin de réfléchir à la formation des enseignants en français et aux méthodes d'apprentissage des mathématiques dans nos écoles. Elle consiste en quoi, donc, cette méthode?
Par méthode, on entend beaucoup de choses, mais ce qui se passe concrètement dans la classe. D'un côté, on a le programme qui fixe des objectifs, qui donne les grandes tendances, qui donne des acquis à avoir au fur et à mesure. Et de l'autre côté, la méthode avec laquelle on travaille, des pratiques, des habitudes. Et on se dit que si la France a de tels problèmes actuellement dans son enseignement mathématique, c'est sans doute parce que notre système, dans son ensemble, a des choses à revoir. Et dans les attendus par le ministre, il y a le fait de faire des comparaisons, du benchmark, pour employer un petit peu d'anglais, entre les pratiques qu'on trouve dans différents pays, de s'intéresser à des choses qui sont beaucoup plus développées maintenant qu'il y a encore 10 ans, qui sont les réflexions des neurosciences dans la matière par rapport à l'apprentissage, de s'intéresser à des questions dans au niveau des petites classes, si on veut, telles que calcul mental, façon d'acquérir les opérations élémentaires, et de réfléchir de façon générale à comment faire en sorte que nos enseignants soient mieux préparés, mieux soutenus, mieux accompagnés, plus fiers de leur mission.
Quelles sont vos premières réflexions à ce sujet ?
Notre première réflexion, ça a été que pour lancer cette mission, il était important de s'entourer d'un panel large. Alors d'abord, je précise qu'il s'agit d'une mission menée en tandem entre moi et Charles Taurossian, inspecteur général de mathématiques, et que notre premier souci, ça a été de constituer la bonne équipe, une équipe qui soit aussi large que possible. Quand on pense à éducation en mathématiques, on pense tout de suite à élèves, enseignants, programme. Mais on ne pense pas à tous les autres acteurs qui ont leur mot à dire de façon importante. Ça va être les responsables des formations, ça va être les directeurs d'établissement, ça va être tous ceux qui participent à l'écosystème d'innovation pédagogique dans le monde des start-up, dans le monde de l'expérimentation pédagogique de façon générale. Et on a eu à cœur de réunir tous ces acteurs autour de la table pour constituer un groupe qui soit capable d'apprendre le problème dans toutes ses dimensions.
Alors nous sommes allés dans 2 écoles pour voir comment on apprenait les mathématiques, Cédric Villani, de manière assez concrète. Tout d'abord, on est allé dans un collège parisien. Notre reporter Raphaël Mantou a tendu son micro à un prof de maths.
Asseyez-vous s'il vous plaît. Est-ce que c'est ça que vous avez remarqué, que 175 x 2 ça fait 350 et que c'est ce même multiplié par 2 qui faisait passer de 214 à 428?
Oui, ça c'est.
Eh bien, écrivez-le. Voilà.
C'est logique. Parce que 1 plus 1, ça fait 2. En plus qu'en français, par exemple, des fois, il y a des exceptions et tout. Mais en maths, il n'y a aucune exception et c'est logique.
Ça peut nous servir après dans la vie.
Mon métier, il serait très facile si j'avais que des élèves qui arrivaient de l'école primaire avec un bon niveau de langue et une acquisition des notions de l'école primaire faite. La difficulté de mon métier, elle est créée par le fait que j'ai beaucoup d'élèves qui n'ont pas une maîtrise de la langue suffisante pour des élèves qui arrivent en sixième, qui n'ont pas une maîtrise des nombres décimaux, par exemple, ou des éléments fondamentaux de la géométrie qu'ils sont censés avoir à la sortie de l'école primaire. Et la difficulté du travail, c'est ça. Si tous les élèves arrivaient avec le niveau attendu, tous les élèves auraient 18 en mathématiques en 6e et tout le collège se passerait bien, mais ce n'est pas ça la réalité. Donc mon travail, c'est d'essayer de combler les écarts avec cette réalité.
Vous avez entendu parler de la méthode Singapour ?
Ça ne concerne pas la majorité des élèves. Je pense que c'est plutôt indiqué pour des élèves qui ont de très hauts objectifs. On est plus dans l'effet de mode et dans la communication que dans la réalité quotidienne du prof de maths. À mon avis, la méthode de Singapour, ça ne va pas concerner la majorité de mes élèves.
2,1 par 7, c'est ça ?
C'est deux choses. Cédric Villani, tout d'abord, votre réaction à ce que dit ce professeur de mathématiques au collège sur le niveau de français de ses élèves et sur la manière dont ceci a une conséquence sur leur apprentissage des maths.
Il a complètement raison. Là, en mathématiques, il s'agit avant tout d'acquérir des concepts. Et si on n'a pas, s'il y a des difficultés de communication, l'apprentissage des concepts passe très mal. Oui, c'est vrai que l'aisance dans la langue, dans le français, est importante aussi pour les concepts, pour le travail mathématique. Les neurosciences nous disent que la réflexion mathématique n'est pas du tout la même que la réflexion au niveau du langage, que ce sont des aires du cerveau différentes qui s'activent, si on peut dire, selon qu'on est en train de réfléchir à un problème mathématique ou en train de réfléchir à un texte, une question littéraire. Mais quand il s'agit d'enseignement, il s'agit avant tout de communication, et si les idées ne sont pas claires, si les consignes ne sont pas bien comprises, si on ne s'entend pas sur le sens, ça se passe très mal. Il a raison d'insister sur le côté crucial de l'enseignement à l'école primaire. Et si les bases ne sont pas acquises à l'école primaire en mathématiques, si les idées ne sont pas claires, la suite se passe en général très mal. Il a raison aussi sur, il parle de maniement de concepts tels que nombre décimaux. Fraction est un élément clé. Et nous voyons que fraction, c'est un des premiers concepts qui sont pas évidents. En fonction du temps, la façon dont vous le pratiquez, ça peut sembler obscur, et pour certains, ça reste obscur pendant toutes les études secondaires. Pour d'autres, une fois qu'on l'a intériorisé, ce premier pas conceptuel mène la voie vers d'autres, et en particulier vers l'étape la plus délicate peut-être, qui est le passage à l'art de la démonstration. Et je vais ajouter une chose sur les fractions, les chiffres sont ravageurs. Quand on regarde la performance des petits Français en la matière, nous arrivons en dernière place de l'OCDE en moyenne.
Pourquoi d'après vous? Parce que ça c'est quelque chose finalement d'assez abstrait, une fraction. Est-ce que cela signifie que notre école n'est pas assez abstraite alors qu'on a plutôt tendance à dire qu'elle le serait de trop?
On a plutôt tendance à, traditionnellement, l'école mathématique française, effectivement, est très abstraite. Et cependant, on a eu des mouvements de balancier. À un moment, on se dit, oh là là, on est trop abstrait, il faut redevenir plus concret.
Mais vous en pensez quoi? Est-ce que votre cerveau de mathématicien, il est prompt à rendre les choses abstraites? Est-ce que, au contraire, lorsque vous pensez aux maths, Cédric Villani, vous voyez des choses très concrètes?
La mathématique est une science de l'abstrait. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut l'enseigner dès le départ, de façon abstraite. Et en matière d'enseignement, ce qu'on sait, c'est que il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et tant que vous n'avez pas testé en pratique devant les élèves, vous ne pouvez pas être sûr de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Il y a des questions des questions neuronales, si je puis dire.
Par exemple, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas lorsque...
Et ce qui marche et ce qui ne marche pas, ça dépend aussi énormément de l'interaction et des pratiques. Ce n'est pas la même façon, ça, au niveau des recettes, des exemples qu'on prend pour introduire les choses, les exemples qu'on va prendre pour introduire la soustraction ne seront pas les mêmes que ceux qu'on introduira pour prendre la division. Division est une opération beaucoup plus complexe à faire sentir que n'est la soustraction, par exemple, même si on se dit d'un point de vue abstrait, division c'est l'inverse de la multiplication, soustraction c'est l'inverse de l'addition, il n'y a pas la même façon. Et c'est beaucoup plus simple aussi de comprendre l'addition que de comprendre la multiplication. Et au niveau de la façon dont le cerveau se saisit de ces concepts, c'est pas la même chose. Les neurosciences sont fait un certain nombre d'apports par rapport à notre représentation des nombres. On sait par exemple maintenant que notre cerveau traite pas de la même façon les petits nombres et les grands nombres, que 1, 2, 3, 4 sont inscrits en dur dans notre cerveau et que même le nouveau-né a conscience de ce qu'il y a quelque chose de particulier avec les quantités 1, 2, 3, 4, alors qu'au-delà, c'est notre système de représentation. Et il faut en tenir compte. Alors, un autre sujet fondamental qui n'a pas encore été mis sur la table, mais dont cet enseignant aurait pu parler, c'est le fait que nos enseignants de primaire, dans leur majorité, sont très mal à l'aise avec la mathématique. En grande majorité, ils ont eu une formation littéraire. Ils et elles sont eux-mêmes, souvent des personnes qui ont eu un passé un peu traumatique avec la discipline mathématique. Et un grand enjeu, c'est de se focaliser sur le niveau de l'enseignant. on s'est beaucoup trop focalisé sur la relation entre programme et élève au cours des dernières années de débat. L'acteur principal qui va être au cœur de notre mission et dont le ministère, nous-mêmes, nous accordons à dire qu'il faut recentrer le débat sur lui, c'est l'enseignant. Formation de l'enseignant, la valorisation des enseignants, le travail en équipe, la possibilité pour les enseignants d'être accompagnés dans leurs expérimentations pédagogiques, les transferts horizontaux de compétences entre enseignants. Tiens, j'ai essayé ça avec mes élèves, ça marche, essaye ça avec les tiens. La possibilité de se rassembler, la possibilité aussi simplement pour les enseignants d'être fiers de leur métier. Vous savez qu'en mathématiques, c'est l'une des disciplines, peut-être la discipline dans laquelle nous avons le plus de mal à recruter des enseignants.
Est-ce que vous pensez que c'est un problème de fierté ?
Vous savez que le statut de la discipline mathématique est très sensible, ça a évolué au cours des dernières années. D'une part, nos résultats moyens en France ont baissé, avec cependant des écarts considérables entre les uns et les autres. D'une part, nos résultats ont baissé, et quand un problème va mal dans le système éducatif, on est toujours prompt à faire de l'enseignant le bouc émissaire. D'autre part, il y a tellement maintenant d'opportunités dans l'économie, dans l'ensemble des métiers pour valoriser vos compétences en mathématiques, une personne qui se débrouille en mathématiques maintenant va avoir une tentation très forte.
Ce qui veut dire que les professeurs sont mal payés, Cédric Villani.
Les enseignants, ce n'est pas un scoop, n'est-ce pas, sont mal payés par rapport aux attentes qui pèsent sur eux, par rapport à l'importance qu'ils ont. Les enseignants sont souvent mal considérés dans le discours ambiant. On insiste sur leur sévérité, et c'est vrai qu'on a des progrès à faire de façon générale en France et en Europe en général sur la façon dont nos enseignants encouragent les élèves. Mais quand même, faut insister sur le fait qu'enseignant c'est un métier difficile, c'est un métier très important, c'est un métier qui regarde vers l'avenir. C'est extrêmement important d'avoir des enseignants compétents. On a aussi ce souci habituel que les enseignants les enseignants débutants souvent sont envoyés faire leurs armes dans des classes difficiles, dans des endroits où la pédagogie, la discipline sont difficiles, dans des endroits où, pour les petites classes où c'est encore plus dur que pour les grandes. Et il y a tout un système à revoir d'incitation pour faire en sorte qu'on ait aussi des enseignants chevronnés en face de nos élèves qui ont le plus besoin. Et au niveau des salaires, il faudra en tenir compte, au niveau des carrières aussi.
Un autre problème, Cédric Villani, ça pourrait être aussi que nous avons de très bons mathématiciens parmi les enseignants, mais un bon mathématicien n'est pas nécessairement un bon pédagogue. Vous avez fait par exemple un coffret de DVD pour enseigner les mathématiques au plus grand nombre. Est-ce que vous trouvez que c'est facile, lorsqu'on est un très bon matheux, de communiquer son savoir ?
C'est toute une affaire, l'apprentissage de la communication mathématique. Et il faut distinguer plusieurs niveaux. J'ai travaillé au cours des dernières années de façon considérable sur le fait de transmettre au plus grand nombre et transmettre, pas insister sur la technique, mais transmettre l'esprit, la culture mathématique. Pourquoi mathématiques ? Ça a transformé l'histoire, donné lieu à de belles aventures. Et effectivement, je viens de publier un coffret de DVD de conférences données à la Maison des Métallos ces dernières années. C'est distribué par Arte, ça s'appelle Un mathématicien aux métallos. Et ça représente toute une expérience et un travail fait sur le terrain pour parler d'une discipline au plus grand nombre. Ce qui est important de réaliser, c'est que l'enseignement de mathématiques, la discipline mathématique, c'est celle dont on attend le plus et le plus grand nombre de compétences. D'une part, ça doit servir à apprendre les opérations de tous les jours, à se débrouiller après dans des comptes, par exemple. D'autre part, ça doit sensibiliser, ouvrir sur le fait que la mathématique est plus présente à travers la technologie dans le monde actuel qu'à n'importe quelle autre époque de notre histoire. Mais ça doit aussi préparer nos futurs ingénieurs, nos futurs chercheurs, et ça doit également participer à la formation de l'esprit logique. Et on a trop tendance à insister sur mathématiques, outils techniques, et pas assez mathématiques, outils qui permet d'accéder à des possibles, qui permet de rêver, qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à des outils informatiques dont nous n'aurions jamais rêvé, qui permet les développements actuels dont on parle tellement sur l'intelligence artificielle, sur l'évolution de médecine personnalisée, sur de nouveaux outils dans les transports. Mathématiques, quelque chose qui est très présent. Et il faut parler aussi de ce sens c'est tout ce qu'il y a de rêve dans la discipline.
Cédric Villani, vous avez deux enfants, l'aîné a le niveau bac. Comment leur avez-vous enseigné les mathématiques, si vous leur avez communiqué votre amour des maths, à moins que vous les ayez laissés travailler dans leur coin?
Moi, je suis toujours partisan de laisser les enfants s'approprier les disciplines, les motivations par eux-mêmes. Il est clair que mes enfants m'ont toujours vu travaillant, motivé, travaillant trop peut-être, mais en tout cas extrêmement studieux et attentif à m'impliquer dans des questions de transmission, dans des questions d'études. Et je pense que souvent la transmission par enfant, elle doit s'accomplir par l'exemple qu'on donne. Henri Poincaré disait « La chose la plus importante que nous puissions transmettre à nos enfants, c'est la faculté de s'émerveiller ». Et je souscris parfaitement à cela. L'apprentissage, c'est une découverte du monde. L'apprentissage, une discipline, c'est découvrir tout ce qu'on sentait pas, tout un univers de possibles qui s'ouvre au fur et à mesure qu'on prend possession des outils, des techniques et des problématiques. Et peut-être la meilleure façon d'accompagner ses enfants, c'est ça, par l'exemple et par la transmission de la motivation autant que possible.
Mais quand on n'a pas cette possibilité-là, parce qu'en France, les maths ont été utilisées pour sélectionner les élèves, parce qu'on considérait qu'ils étaient moins inégalitaires que d'autres matières, que la culture dite générale, est-ce toujours le cas? Est-ce votre sentiment?
On l'a pensé effectivement, et moi-même je l'ai pensé sincèrement, mathématiques, une discipline qui est moins inégalitaire que d'autres, parce que on peut toujours se mettre à la discipline, quelles que soient les origines, les langages, les cultures dans lesquelles on
a baigné. Mais apparemment, c'est pas si vrai. Tout à l'heure, on avait un prof qui disait ça dépend du niveau de langue.
Ça dépend de façon très importante du niveau de langue. Et nous avons des progrès importants à faire aussi par rapport à ça, par rapport au fait d'emmener tout le monde dans la barque, de travailler à corriger les écarts sur le niveau d'appropriation de la langue, sur le niveau aussi de la façon de se sentir motivé par rapport à l'éducation. Il y a autre chose en mathématiques, c'est que c'est une discipline qui est si subtile que c'est un révélateur de n'importe quel dysfonctionnement du système au niveau de la confiance, au niveau de l'aisance, au niveau de la capacité de l'inclusion.
On vous retrouve aux environs de 8h20, Cédric Villani, vous êtes médaille FIDS 2010, vous êtes également député La République En Marche. On va évoquer cette mission qu'on vous a confiée pour réformer les méthodes d'enseignement des mathématiques, et puis on va parler d'une méthode qui est très à la mode en ce moment, la méthode Singapour. Vous nous la décrirez et vous nous donnerez votre sentiment à ce sujet.